Quel succès.
Ça commence bien. Alors tout d'abord, bonjour tout le monde. Bienvenue sur Godéamus, le podcast qui vous parle d'art et d'histoire autour d'une bonne bière. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc moi c'est Mathias. Aujourd'hui, je suis accompagné du très grand et du très beau Arne.
Bonsoir Mathias.
Et aujourd'hui, nous avons un invité exceptionnel, c'est vous, public du Brussels Podcast Festival. Merci voilà, à vous d'être venu.
Vous pouvez applaudir.
Alors pour trouver la thématique d'aujourd'hui, on se demandait si vous connaissiez les statues qui se trouvent au Petit Sablon. On a deux personnages qui se trouvent donc sur un socle et qui sont enlacés. Est-ce que ça vous dit quelque chose ou pas? Oui. Et vous savez qui c'est? Ah, effectivement, il y a tous les corps de métier. On a les personnalités importantes du XVIe siècle qui sont représentées. Et on a deux très grandes statues. Arne, c'est qui?
Alors, c'est les statues de Egmont et Horn. Et la bière que vous buvez, que vous avez déjà bu, j'espère que vous ne l'avez pas complètement terminée. Mais c'est la morale d'Egmont. Donc la morale, c'est le prénom de ce comte d'Egmont. Hein. Et donc la statue, enfin, c'est deux personnages, donc Egmont et Horn, qui. Bon voilà, on va parler de ces personnages ce soir.
Alors tout d'abord, on va vous faire une petite introduction en zytologie. J'espère que vous êtes prêts à apprendre à déguster votre bière. Déjà, à apprendre à bien la servir, on va pouvoir y aller. Je suis peut-être pas le meilleur pour ça.
Oui, donc l'important pour la servir, c'est de la servir bien à 45 degrés pour éviter que la bière ne soit trop oxygénée et aussi voilà. Pour éviter que les petits dépôts qui se trouvent au fond ne se retrouvent dans votre bière. Bon, il y a plusieurs écoles, hein, y en a qui adorent ça, c'est la levure, donc ça vous donnera du bien à l'estomac, surtout le lendemain. Ça vous aidera à aller aux toilettes probablement. Mais voilà, donc ça, comme ça, vous servez bien.
Voilà, et on évite de toucher le bord du verre avec le bord de la bouteille, aussi avec le goulot. Autant éviter les maladies, hein, surtout maintenant.
Clairement. Et pour tenir son verre, on évite de chauffer la bière, hein, donc on le tient bien par le bas. Voilà.
Pas comme moi.
Voilà, pas comme Mathias. Merci de montrer le mauvais exemple.
Voilà. Alors donc, pour déguster une bière, d'abord, on la regarde. Vous pouvez la lever.
Donc on regarde sa
couleur.
Sa couleur. Hein, donc juste pour que vous sachiez, les couleurs, c'est paille, doré, ambré, acajou, brun ou noir.
Je pense que sans surprise, on peut dire la couleur de la bière.
Voilà.
On est plutôt sur du blond ombré.
Blond ombré, tout à fait. Puis après, on regarde la mousse.
Oui, j'ai entendu un brun au premier rang, mais...
bravo.
Voilà. Alors, oui, concernant la mousse, je pense qu'on a tous eu la surprise de voir la mousse dans notre verre.
Okay. Ouais,
est-ce que c'est plutôt une bière plate ou une mousse plutôt importante? Ouais. Belle mousse.
On parle de mousse généreuse, hein, clairement. Et puis après, ouais. On regarde la limpidité de la bière. Hein. Le mieux, c'est de la regarder dans la lumière. Et là aussi, il n'y a pas de surprise. C'est clairement translucide.
Alors, une bière aussi, ça se sent. Alors, on vous invite à faire tourner légèrement votre verre et à d'abord avoir les premiers arômes de la bière en tenant votre verre légèrement éloigné et puis en le rapprochant très près de votre nez et d'essayer de déceler les arômes qui émergent.
Mais d'abord, on peut parler de l'intensité, Mathias. Est-ce que les arômes sont intenses?
C'est vrai, tout à fait.
Bon, je sais pas, moi, je trouve ça assez moyen.
C'est assez moyen. Ça ne vous saute pas au nez directement. C'est assez compliqué d'identifier ce qu'on arrive à sentir. Une petite note de fruit quand même.
Je ne
sais pas si vous arrivez
toi.
À la sentir. Tout à fait, une petite note d'agrumes. Bien vu Aurélien.
Et puis après, on peut passer. On va la goûter. Mais et avant de passer donc à tout ce qu'on sent comme goût, on sent un peu ce que ça fait dans la bouche.
Santé.
La chaleur. Si on parlait de la chaleur.
Alors la chaleur d'une bière. Donc on regarde. Déjà, est-ce que pour vous, elle est forte ou pas? Sans regarder l'étiquette. Non, oui. Plutôt moyen. Ok.
Ah, quand même à 8%. Hein.
8%, c'est quand même une bonne bière. Ouais.
Ça va.
Ou alors vous êtes habitué aux très très fortes bières, oui. Félicitations. On regarde aussi entre le pourcentage sur l'étiquette et le pourcentage qu'on ressent quand on la boit.
Voilà, après on regarde aussi la carbonatation, hein, donc c'est-à-dire est-ce que ça, en gros c'est juste le CO2 qui est présent dans la bière et donc voilà, là vous pouvez aussi sentir si ça pétille très
est-ce
fort.
Est-ce que ça
ou pas.
Pétille, oui.
Bon, je trouve que c'est moyen.
C'est moyen. encore léger. Ouais.
Ok, si on passait au goût.
Alors le goût, est-ce que vous arrivez à identifier quelque chose ?
Floral.
Floral, agrumes, oui, ok, très bien. Le houblon, pas mal, on aurait pu dire le malt. Pas mal non plus, oui. Un peu de miel, oui. Très bien, ça c'est le côté un peu doux de la bière, oui, très bien. On a à peu près tout dit. Hein.
On a à peu près tout dit. Voilà. L'amertume est assez légère, je trouve. Oui. Ok.
Alors, Arne, cette bière, elle vient d'où ?
Elle vient d'où ? Elle vient de la brasserie Vandenbosch, qui est une brasserie quand même assez vieille, hein, parce qu'elle existe depuis 1897, et c'est une brasserie qui est toujours familiale, c'est toujours la même brasserie qui... c'est toujours, pardon, les mêmes brasseurs qui brassent. C'est à Zottegem, précisément dans la commune de Herzele, donc tout près d'Alost. Tout le monde connaît Alost maintenant. Merci, ouais. Merci Alost. Voilà. Donc oui, c'est vraiment une petite brasserie très familiale et qui se visite, bien entendu. Donc voilà, elle est très, je ne sais pas comment dire, mais très, très typique, très, très belle. Donc n'hésitez pas à y aller.
Oui, elle est sur plusieurs générations. T'as dit depuis quand elle était là ?
Oui, 1897.
Ok, autant pour moi.
Tu n'écoutes pas.
Pardon. Alors, cette bière, bah, son nom n'est pas anodin. Donc, Arne l'a dit, c'est la Morale d'Egmont. Alors déjà, ce serait bien de savoir qui est ce fameux la Morale d'Egmont. Donc, c'est un comte qui va naître en 1522 à La Hamède. Donc, La Hamède, c'est près d'Elzel.
Et si vous ne connaissez pas Elzel, on vous conseille d'écouter notre podcast sur le sabbat des sorcières.
Voilà, tout à fait. On va vous faire plein de liens avec tous les autres épisodes. Voilà, avec la quintine. Alors, c'est une des plus riches familles nobles de la région. Et donc, la Morale va prendre de plus en plus d'importance. Mais avant de vous parler de la Morale, autant vous situer un petit peu le contexte de l'époque et du XVIe siècle.
Exactement. Donc, en gros, la Morale, on se situe au début des temps modernes. Hein. Donc, les temps modernes, c'est cette époque après le Moyen Âge, donc plus ou moins vers 1500. Ça tombe bien, 1500, c'est une date un peu clé, vu que c'est la naissance d'un personnage très connu dans nos régions, à Gand, de Charles Quint, donc Charles de Habsbourg, qui donc est un personnage important dans notre territoire. Pourquoi ? Bah parce que, justement, il va solidifier nos territoires, il va vraiment les mettre ensemble. Alors, comment est-ce qu'on s'est mis ensemble, au fait, quand je parle des Pays-Bas ? C'est très simple, on a eu des ancêtres de Charles Quint, les ducs de Bourgogne avant lui, qui, du coup, au fait, via un mariage, tout simplement, ont tout d'un coup acquis, en plus de la Bourgogne, ont acquis la Flandre. Et puis après, ils ont commencé à prendre toutes nos régions, que ce soit par des achats en viager, ça se faisait déjà à l'époque apparemment pour des territoires, c'est vachement pratique. Donc voilà, par exemple Namur, il a acheté ça en viager, ou alors il se marie, ou il reçoit des héritages, ou alors quand je dis « il », c'est en gros les ducs de Bourgogne, pour ne pas tous les citer dans les détails. Mais en gros, donc, ils acquièrent ces territoires et créent plus ou moins, ils créent complètement le Benelux, au fait. Hein. À l'époque, on appelait ça les Pays-Bas, aussi pour la Belgique, donc on parle de Pays-Bas. Et de ça, va y avoir une lignée de personnes. Et donc, un de ces personnages importants, c'est Charles Quint, qui va naître à Gand en 1500, qui va être élevé à Malines et à Bruxelles, qui va se retrouver dans un contexte où on a la naissance du protestantisme. Il va avoir plein de problèmes, hein, il va avoir plein de guerres, il va régner sur une bonne partie du monde. Donc d'office, quand on règne sur une bonne partie du monde, on ne peut avoir que des problèmes.
Le soleil ne se couchait jamais sur son royaume.
Voilà, tout à fait. Tout à fait, et parce qu'il régnait sur les Amériques, mais en même temps sur l'Espagne, sur les Pays-Bas, il est en même temps empereur d'Autriche, il régnait sur le nord de l'Italie. Donc voilà, tout ça amène, tout ça fait que c'est un dirigeant qui doit bouger beaucoup, mais nos provinces, au fait, il les connaît bien. Et donc, dans nos provinces, à part quelques petits épisodes un peu belliqueux, ça se passe relativement bien parce qu'il parle flamand, il parle français, il connaît bien les coutumes belges. Après, il va avoir un fils qui s'appelle Philippe II, qui va devenir roi d'Espagne au moment où Charles Quint abdique en 1555. Il va donner la partie autrichienne et l'empire à son frère, Charles Quint.
Mais il va donner donc les Pays-Bas et l'Espagne à Philippe II. Le problème de Philippe II, c'est qu'il ne connaît pas très bien nos régions. Il ne se plaît pas très bien par ici. Je pense qu'il préfère clairement le soleil d'Espagne au temps de chiottes qu'on a ici. Mais toujours est-il, donc, du coup, lui, il ne parle pas très bien français, il ne parle pas du tout néerlandais. Et donc, ça commence à foirer. Et ce qui est assez traditionnel ici, c'est du coup, on met une régente, parce qu'on a eu donc, plusieurs régentes qui ont vraiment dirigé les Pays-Bas. Y en a pas mal qui ont fait ça très bien, comme Marguerite d'York, par exemple. Et au moment où Philippe II part, hein, parce que, comme je le disais, il n'aime pas trop la Belgique, enfin les Pays-Bas. Au moment où il part, il met sur la régence Marguerite de Parme, qui est sa demi-sœur. En gros, c'est donc une femme qui, enfin, dont Charles Quint est son père et qu'il a eu avec une Flamande. Donc, comme ça, au moins, c'est quelqu'un quand même un peu d'ici. Alors, vous me direz pourquoi elle s'appelle de Parme, parce que Parme, c'est quand même en Italie. En gros, elle est veuve du duc de Parme. Et donc voilà, elle se retrouve dans cette position et elle va avoir une position très, très délicate parce qu'elle va se retrouver entre Philippe II qui ne sait pas très bien contrôler tout, mais qui veut quand même tout contrôler. Donc voilà, c'est un contrôle freak, hein, comme on appelle ça dans le management actuellement, et ça, souvent ça se passe très mal. À l'époque aussi, ça se passe extrêmement mal. Et de l'autre côté, elle va se retrouver avec plein de troubles dont on va parler maintenant.
Alors, vu que je sais qu'il y a des Français dans la salle, pour réussir à situer un tout petit peu, c'est d'abord l'époque de François Ier, et puis après on a Henri II. Pour réussir à me voir, et c'est Henri VIII en Angleterre, le fameux héros dans les Tudors que vous avez peut-être pu regarder. Alors on parle beaucoup de troubles politiques, mais il y a aussi beaucoup de troubles religieux à l'époque. Et on ne peut vraiment pas parler de cette époque-là sans parler des troubles religieux. On a Luther qui fait son apparition, donc on considère qu'en 1520, il commence à être de plus en plus important, et donc il commence à s'opposer avec le protestantisme face au catholicisme qui est un peu répandu dans toute la région. Alors, on va avoir le calvinisme, ça c'est vraiment ce qui va s'imposer le plus dans nos régions. On va parler donc des 17 provinces, hein, pour parler de ces régions, donc ces fameux Pays-Bas. Il faut aussi imaginer qu'il y a le nord de la France, hein, on va avoir Calais, on va avoir Valenciennes, qui vont aussi être dans nos régions. Le calvinisme va d'abord se répandre via Anvers, parce qu'ils sont en relation avec les marchands allemands. Donc on va avoir comme ça une belle diffusion dans nos régions.
Et là, à nouveau, si vous voulez savoir plein de choses sur les marchands allemands, je vous écoute d'écouter notre podcast sur la Hanse.
Ouais, il est passionnant.
Bien sûr, comme tous nos podcasts.
Et donc pour les protestants, ça ne va clairement pas être facile. Hein. Donc ils remettent en cause une grande partie de l'Église telle qu'elle est dans nos régions. Du côté de Luther, c'est un peu plus calme, mais les calvinistes, ils y vont quand même assez sévères.
Je pense que dans nos provinces, ils préfèrent le côté un peu anard des protestants, des calvinistes, donc voilà.
Voilà, mais par contre, déjà en 1523, on a déjà des premiers calvinistes qui sont exécutés par le feu pour leur religion.
Voilà, des moines augustins. Et c'est, oui, les premières exécutions à Bruxelles, ça va vite. Et donc oui, Charles Quint, donc qui est un personnage catholique, donc le père de Philippe II, pour le rappeler, et c'est un personnage catholique, il fait partie de la Toison d'Or, comme l'avenue qui est ici à Bruxelles, qui est en gros un ordre de chevaliers. Et dans cet ordre, ils aiment bien la religion catholique, ils y tiennent. Et donc du coup, Charles Quint aussi, il y tient. En plus, on est en plein contexte de la Reconquista, donc c'est un des... En Espagne, on avait les musulmans avant allaient très très haut en Espagne. Et puis là, juste avant 1500, c'est la toute fin de la Reconquista. Donc en gros, ils ont vraiment cette espèce de ferveur catholique en eux. Et ils détestent les hérétiques. Et les protestants, pour eux, oui, c'est des hérétiques.
On va avoir l'apparition de l'Inquisition. Hein. C'est pas anodin. On va poser la question. Donc on va torturer les gens pour réussir à voir s'ils sont hérétiques ou pas. C'est un moment très important aussi, déjà pour Charles Quint et après pour son fils Philippe II, parce qu'ils vont essayer de maintenir une espèce d'unité religieuse, ce qui va leur permettre d'asseoir leur pouvoir aussi dans la région. C'est beaucoup plus simple de défendre des territoires qui sont unis au niveau de la religion que des territoires qui sont complètement divisés entre calvinistes, luthériens, catholiques, etc. etc.
Oui, c'était le cas, par exemple, donc, vu que Charles Quint, c'est un empereur, donc... peut-être que vous le savez, mais en tout cas en Allemagne, donc le protestantisme émerge clairement et est soutenu par des princes locaux. Et donc voilà, ils veulent en effet pas que se reproduise le même scénario que ce qui s'est passé en Allemagne, pour parler simplement. Et donc en effet, comme tu le dis, de garder cette unité religieuse, c'est extrêmement important pour eux.
Alors dans nos régions, concrètement, comment est-ce que ça va se présenter? Ben, il va y avoir des placards qui vont être émis, donc ce sont vraiment des textes qui vont faire la chasse aux hérétiques. Et donc on va pouvoir d'abord les capturer, les juger, les chasser, les excommunier ou parfois les tuer. Et de plus en plus, on va être de plus en plus sévère dans la répression des hérétiques.
Non, absolument.
Absolument.
Absolument, Mathias. Tu parles tellement bien. Mais j'allais dire, dans la répression, justement, si vous prenez votre bouteille, parce que tant qu'on est dans un live, autant que ce soit un peu interactif, je vais déjà spoiler sur la fin, hein, bien sûr, parce qu'on adore les spoilers.
Il y a un indice sur l'étiquette.
Voilà, il y a un indice sur l'étiquette, il y a une tête, il y a une épée. Donc autant, enfin voilà, vous allez peut-être deviner à quoi ça va servir, mais c'est de la répression. Avec les épées, on décapite. Et voilà. Ouais, bah oui.
Ça va mal se passer pour quelqu'un.
Ça va très mal se passer pour un personnage. Mais on va revenir dessus après.
Voilà. Bah non, revenons dessus tout de suite.
Ah, pardon.
Donc, on vous a parlé des contes d'Egmont. Donc, c'est bien la morale d'Egmont. On va aussi avoir Philippe de Montmorency, donc comte de Horn. Et on va avoir Guillaume d'Orange, qui vont être les trois personnalités qui vont nous intéresser aujourd'hui. Bon, on va surtout être sur la morale d'Egmont, vu que vous êtes en train de boire sa bière.
Mais on va aussi quand même parler de Horn, étant donné qu'il va se faire décapiter, je l'ai dit, voilà. en même temps. Et puis on va parler aussi de Orange, parce que Guillaume d'Orange, le taciturne.
Ok. Donc gardons la tête sur les épaules. Mais... c'est une période de grande centralisation et c'est très très important pour Philippe II. Donc vraiment, c'était déjà amorcé avec Charles Quint, mais Philippe II va vraiment faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de bureaucrates qui vont être installés dans tous les différents conseils qui vont se retrouver, notamment un conseil très important, Arne.
Le Conseil d'État. Donc en gros, dans nos territoires, comme je le disais tantôt, Charles Quint ou Philippe II, ou même les ducs de Bourgogne avant eux, en gros, ils ont des territoires qui sont gigantesques, hein, qui sont bien plus grands que la Belgique actuelle. Et donc, il faut pouvoir gérer ça. Et donc, bon, bien sûr, on met en place des gouvernantes, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi se reposer sur les institutions locales. Et surtout que dans les Pays-Bas, ils adorent avoir leur mot à dire. C'est très bien pour eux, d'ailleurs. Et donc, ils vont se reposer sur des institutions, dont une qui est très importante, c'est le Conseil d'État, où on a des membres de la haute noblesse et du haut clergé. Et puis après, il y a toute une série d'autres institutions. Je vais juste les citer pour le fun, mais donc il y a le Conseil privé, le Conseil des finances. Et puis, il y a également les États généraux. Ça, peut-être que vous connaissez via les révolutions françaises, où on parle sans cesse des États généraux. Mais en gros, c'est pareil, on a des représentants de la noblesse, de la bourgeoisie et du clergé. Mais on va surtout donc parler du Conseil d'État, parce que, en gros, ce qui va se passer, à nouveau, on va spoiler un peu, mais il va y avoir une révolte à un moment, parce qu'ils ne vont pas se faire décapiter pour rien. Mais c'est comme d'hab, en gros, les révoltes, ça part par le peuple, et puis c'est récupéré par l'élite. Et voilà. On va avoir exactement le même scénario ici. Alors, du coup, je bois un... Parce que, hein, voilà.
Santé. Alors oui, on parle de révolte par le peuple, mais... Quand même, on va vous parler de personnages qui font partie de la très haute noblesse. Hein. Donc, c'est pas vraiment une révolution populaire comme on aime bien la vendre généralement. On va en rediscuter un petit peu plus tard. Mais donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a la morale. Il va avoir Philippe de Montmorency et ce fameux Guillaume d'Orange qui vont siéger dans ce conseil et qui vont voir d'un très mauvais œil apparaître un évêque cardinal. J'ai toujours son nom, mais le prénom, hein, parce que Antoine Pernot de Granvelle. Qui va apparaître et qui est placé là par Philippe II. Et donc déjà, bon, ça râle un peu, parce qu'on se dit, bon, qu'est-ce que c'est que ces personnages qui sont placés par les Espagnols chez nous, alors que bon, on se débrouille très bien tout seul à la base. En plus, c'est un très bon confident de Philippe II, et c'est aussi un personnage extrêmement riche, et qui a de l'argent, qui a du pouvoir également.
Et en plus, il vient de Franche-Comté, alors j'espère qu'il n'y a pas des gens de Franche-Comté ici, enfin, en tout cas... à l'époque, il détestait les Franc-Comtais, il les considérait comme des étrangers.
Les Franc-Comtois.
Les Franc-Comtois, oui. J'avoue que je ne connais pas bien la Franche-Comté. Mais donc voilà, oui, il était en plus considéré comme un étranger. Or, le Conseil d'État, c'est justement le lieu où on se retrouve un peu entre nous. Donc voilà, ça ne fait pas bon ménage.
Et donc je disais, il est très riche et ça pose aussi problème parce qu'à la base, les évêchés, ça suit vraiment quelque chose qui est très ancien et qui vient déjà de l'Empire romain. Il y a des frontières qui ont très peu bougé au fur et à mesure. Ça ne suit pas du tout les frontières politiques. Et donc, à un moment donné, avec ce grand vel, on va modifier un petit peu certains évêchés et ça va lui ramener donc énormément d'argent. Et donc, au fur et à mesure, il va prendre énormément de place au sein de ce comté, de ce conseil, pardon. Et donc, Guillaume d'Orange, la Morale et le comte de Horn vont créer une espèce de ligue pour vraiment s'opposer à ce cardinal.
Et en plus, juste donc pour rajouter sur le pouvoir que prend ce grand vel, donc avec ce changement institutionnel, comme tu le disais, en gros, il s'accapare en plus le clergé dans les états généraux. Donc, c'est-à-dire qu'il avait vraiment un contrôle absolu. Et donc, du coup, via grand vel, Philippe II avait un peu un contrôle absolu sur nos provinces. Et du coup, ben, ça ne plaît pas aux ambitions et aux sentiments de Horn, de Egmont et de Orange.
Alors, Egmont, on ne l'a pas dit, mais il est gouverneur de Flandre et d'Artois. Donc, il faut imaginer la Flandre, hein, c'est quand même énorme à l'époque. Le comte d'Horn, c'est un peu plus léger, mais en tout cas, c'est un commandant réputé d'une cavalerie lourde.
Maintenant, il est aussi donc, gouverneur de la Gueldre.
C'est un peu plus petit que l'Artois et la Flandre.
Oui, non, c'est sûr. Et alors, Orange, lui, il est donc gouverneur ou Stadthouder, comme on les appelait à l'époque, un des gardiens des villes, comme ça, de la Hollande.
Et le comte d'Horn, lui, vient d'une lignée française, mais qui avait préféré rester du côté des Bourguignons plutôt que du côté français. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'en 1564, bah, ils vont réussir leur coup, ils vont faire en sorte que Granvel soit renvoyé. Et donc, eux vont rester un petit peu seuls maîtres à bord, mais ce n'est pas ça qui va éviter les troubles dans la région.
Non, c'est ça. Et du coup, ils vont réussir, hein, comme tu l'as dit, à l'écarter. Ils vont essayer de gérer, mais voilà, les placards, les édits hein, de Philippe II, ils sont toujours là. Il y a toujours un peu ce problème. Et surtout, eux, ils sont opposés à la politique de Philippe II, mais ils restent quand même loyalistes. Et c'est ça qui est aussi un peu difficile dans cette période, c'est qu'on a en fait plein de camps différents. On a d'une part, comme tu l'as dit, il y a la naissance du protestantisme, donc on a vraiment ceux qui réclament vraiment une liberté de culte.
Les rebelles.
Voilà, qu'on va appeler les rebelles, comme dans Star Wars.
On n'est pas dans Star Wars.
Ouais,
j'adore, voilà.
Ouais, on est fans. Donc on a eux, puis on a les loyalistes, mais qui veulent quand même du changement, donc souvent c'est la noblesse. Rien de surprenant à ça. Et puis après, on a également les royalistes. Donc on a vraiment des royalistes qui sont vraiment fidèles à Philippe II. Et donc on a trois camps. Mais ce qui va se passer, comme d'hab, hein, c'est l'élite qui domine. Et donc, Egmont, je cherchais son nom, je n'arrête pas de le répéter, mais je cherchais quand même son nom.
Nom est juste à côté de ta tête.
Ah,
quand même,
voilà, c'est ça. Ah bah voilà.
Voilà. C'est la Morale même.
Oui, mais c'est écrit en néerlandais, donc voilà, Graaf van Egmont. C'est plus compliqué à prononcer.
Mais en tout cas, il faut savoir que ce qu'eux veulent, c'est un adoucissement des ordonnances envoyées par Philippe II. Hein. Donc eux, ils sont vraiment dans le camp plutôt démodéré, donc ils n'ont rien du tout contre Philippe II. Hein. Certains critiquent un peu sa politique, mais ce qu'ils veulent vraiment, c'est que ça se calme au niveau du peuple, parce qu'eux, ils sentent que ça commence à vibrer, que les populations commencent à se soulever un tout petit peu. Il n'y a pas encore de mouvement important juste à ce moment-là, mais ils se disent il faut à tout prix qu'on calme le jeu et il faut qu'on empêche un petit peu ces édits, en tout cas qu'on les mette en stand-by. Et ce serait bien que Philippe II se rende compte de ce qui se passe dans nos régions, parce que lui, évidemment, il règne depuis l'Espagne et c'est quand même un petit peu loin. Ça prend du temps pour communiquer.
Ça prend du temps pour communiquer, ça prend deux à trois semaines hein, pour que les lettres s'envoient. Et là, à nouveau, vous allez dire, je fais sans cesse la pub pour tous nos podcasts, mais je vous conseille d'écouter notre podcast sur la Poste pour en savoir plus.
Promis, on arrête après.
Voilà, c'était le dernier qu'on référençait. Mais donc, pour calmer ce jeu, bah, Egmont, qui va aller à Madrid en 65, 1565, si jamais vous êtes perdu sur les siècles. Il va aller à Madrid, il va demander, hein, bah, il va faire un peu son mazo, parce qu'ils veulent que, enfin voilà, Philippe II, c'est déjà pas un bon dirigeant, mais ils veulent quand même qu'il revienne, comme tu l'as dit. Donc il va demander, bah, voilà, est-ce que tu veux bien revenir ? Enfin, j'imagine que le vous voit, hein, un peu solennel.
J'imagine, oui.
Quand même. Donc, est-ce que vous voulez bien revenir ? Est-ce que vous voulez bien adoucir les placards ? Et alors, Philippe II, il faut savoir que c'est un mec qui prend clairement son temps. Il va pas répondre trop vite. Il va être évasif. Oui, il y a peut-être moyen. Allez, voilà, ça va aller. T'inquiète.
On l'appelle le roi lent ou quelque chose.
Un truc comme ça. Ouais. Ouais, le roi indécis, je pense.
Ou le roi prudent.
Le roi prudent.
Le roi prudent. Oui. Voilà.
Enfin, si dans la salle vous le savez mieux, dites-le nous. Donc, il va lui faire une réponse un peu évasive et Egmont, il va se dire « Ok, c'est bon, je retourne dans les Pays-Bas et tout va bien. J'ai réussi à calmer le jeu et à ce que les placards soient adoucis. » Sauf que, bien sûr, Philippe II, à chaque fois, soit il change d'avis ou alors il prend la décision dans le mauvais sens.
En tout cas, il est occupé à ce moment-là parce que les Turcs menacent l'île de Malte. Et pour lui, ça lui semble beaucoup plus important que ce qui va se passer dans nos régions. Bon, il s'est un peu trompé, mais il a pris énormément de mauvaises décisions, Philippe II.
Oui, c'est ça, clairement. Et donc, en gros, une fois que Egmont, à nouveau, je cherchais son nom, s'en est allé, il envoie ce qu'on a appelé à l'époque les lettres de Ségovie, qui sont des lettres dans lesquelles, au fait, tout ce qu'il va faire, c'est l'inverse donc, de ce qu'il a dit à Egmont. En gros, il dit non, on va mettre en place l'Inquisition, on va vous maintenir les placards, vous chasser les hérétiques, je ne veux pas voir ces gens-là. Et donc, le fils, c'est pas top, hein ?
C'est pas top, et ça va nous amener à une année décisive, c'est l'année 1566, donc, c'est bon, Arne ?
Ouais.
Ok. Double check. Et en gros, on est vraiment simplement 11 ans après que Philippe II ait eu accès au trône. Et ce qui va se passer, c'est que les nobles vont soumettre toute une série d'exigences à Marguerite de Parme. Et donc, eux vont vouloir une espèce de mixité religieuse. Et donc, ça va s'intituler le compromis des nobles.
C'est ça. Et en gros, ce qu'ils demandent, c'est la même chose que ce qu'Egmont a demandé. Hein, donc, c'est juste de calmer le game. De faire en sorte que tout aille bien. Pareil, ils disent clairement, on est loyaliste, vraiment, on vous aime, Philippe. Revenez.
Reviens, Philippe.
Reviens, Philippe.
Oui.
Voilà, s'il te plaît. Comme Johnny. Donc, reviens. Bon, allez, convoque aussi les états généraux, si tu veux bien. Enfin, ça, ils demandent ça à Marguerite. Et
Marguerite, elle est assez impressionnée, en fait, hein, de voir tout ce défilé de nobles qui essayent de présenter toutes ces idées. Il y a quelqu'un qui n'est pas trop impressionné, c'est un certain Berlaymont.
Comme le bâtiment.
Voilà, ça devrait vous dire quelque chose. Et ce Berlaymont déclare à Marguerite, n'ayez crainte, ce ne sont que des gueux.
Voilà. Donc, du coup, c'est pour ça qu'après, on a appelé ça la révolte des gueux. Et même les nobles eux-mêmes vont se dire, oh, mais c'est sympa les gueux, on va faire un petit banquet pour dire, tiens, on est content de s'appeler gueux, donc ils vont faire le banquet des gueux.
Voilà, ils vont s'habiller en gueux, ouais. Avec des petites sacoches, ils vont aller jusqu'au fond, hein, jusqu'au bout, pardon.
Clairement. Et donc, ce compromis, mais pareil, c'est vraiment pour dire, au fait, on craint vraiment une révolte. Et pourquoi est-ce qu'on craint une révolte ? Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas encore dit, mais c'est qu'à l'époque, il y a la famine. Bah oui, parce que toute révolte, ça, comme je le disais en tout début, ça vient toujours du peuple. Et puis après, c'est récupéré par l'élite. Bah là, c'est pareil. En gros, on a d'une part une famine, parce qu'il faut savoir que il y avait des troupes espagnoles sur place, parce que hein, Charles Quint, comme Philippe II, il faisait sans cesse la guerre. Bah oui, bien sûr, contre les Français, contre n'importe qui. Et ces troupes, pour les lever, il faut les payer, il faut lever des impôts. En plus, les troupes, elles sont de toute façon toujours mal payées. Et donc, comment est-ce que des troupes se payent ? En pillant et en saccageant les régions qu'elles sont, j'allais dire, censées protéger, mais pas vraiment, je pense.
Ça veut dire que la population doit payer non seulement des impôts pour lever ses armées, mais en plus, ils doivent les loger, les nourrir et en plus subir toutes les exactions qu'ils vont réaliser dans les campagnes et dans les villes. Donc, c'est quand même assez dur à soutenir.
Donc voilà, donc ils craignent vraiment cette révolte. En plus de ça, après, avec le compromis des nobles, au fait, Marguerite, elle va accepter, elle va dire « Ok, j'envoie votre requête à Philippe ». Mais là, à nouveau, comme on l'a dit, ça prend 2-3 semaines à arriver. Mais elle dit « D'accord, j'accepte, on adoucit un peu les placards ». Et c'est là que, au fait, les prédicateurs protestants, ils vont en profiter pour faire des sermons un peu partout, de plus en plus violents, de plus en plus virulents. Et ça va déboucher sur une crise.
Sur la crise iconoclaste. Donc là, on est en été 1566. Et là, c'est un peu la folie dans le nord de la France. Donc on est plutôt du côté de Dunkerque. Mais à ce moment-là, ce sont les Pays-Bas, hein, ce sont nos régions. Et donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont détruire les églises, ils vont détruire les monastères. Bon, ils vont couper les têtes des statues. Enfin, et ils ne vont pas faire que détruire des statues. Ils vont tuer les représentants également du clergé. Donc, ça va être quand même un moment assez traumatisant pour les populations. Le comte d'Egmont est notamment horrifié de ce qui est en train de se passer dans la région. Marguerite aussi.
Elle envoie du coup Egmont Horn à Tournai. Justement, je sais qu'il y a quelques Tournaisiens dans la salle. Voilà. Donc elle va envoyer Horn à Tournai pour rétablir l'ordre. Ça n'a pas très bien marché. Enfin, en tout cas, il va essayer de donner la liberté de culte, mais ça n'a pas très bien fonctionné. Elle va envoyer Orange à Anvers, un berceau du protestantisme en Belgique, mais voilà, tout ça ne va pas très bien fonctionner. Et Philippe II, il est quand même tenu au courant des événements.
Oui, là, il se rend compte un petit peu de la difficulté de maintenir l'ordre dans nos régions. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va envoyer le duc d'Albe, à savoir, Arne, son nom précis.
Oula, Ferdinand Alvarez de Tolède, 4e duc d'Albe ou un truc comme ça, j'avoue qu'on les noms.
Alors c'est quand même la personnalité militaire la plus importante d'Espagne à l'époque, donc vraiment en l'envoyant, c'est un signal fort. Le but de ce duc, c'est de préparer l'arrivée de Philippe II, qui est censé arriver comme un sauveur et rassurer la population. Sauf qu'au fur et à mesure, il va postposer son arrivée, il ne va finalement jamais venir. Et donc c'est le duc d'Albe uniquement qui va régner pour Philippe II. Enfin, pas régner, mais qui va prendre les décisions pour lui.
Voilà, donc Alba arrive, Orange, lui, il va quitter, Egmont et Horn, ils vont rester, mais du coup, ils vont rester à Bruxelles, et du coup, on va se boire une deuxième bière.
Voilà.
Ah bah oui.
On espère que vous avez déjà fini la première.
Ouais, donc voilà, donc le temps que la deuxième bière arrive, allez-y, terminez la première, moi aussi. Ah oui, au fait, en attendant, parce que d'habitude, on note les bières sur 10, qu'est-ce que vous avez trouvé de la première sur 10? 7 dans la salle.
7, 6. Ah, du 8.
Du 8, carrément.
6 plutôt, ouais. Ici, ouais.
Ok.
8 aussi, d'accord, très bien, parfait. Bon, allez, on est content de l'avoir choisi, du coup.
Bah ouais, c'est un bon choix. On doit dire, nous-mêmes, on l'avait jamais goûté avant, donc...
C'est la grande surprise, ouais.
Donc voilà, donc on est très content que ça passe bien.
Tu me fais tourner la tête, mon manège à moi c'est toi, je suis toujours à la fête, quand tu me tiens dans tes bras.
Du coup on reprend cette fameuse Zinebier.
La Zinebier, donc là, voilà, on... Oui, désolé. C'est parce qu'au fait, on l'a pas dit, hein, mais on enregistre en live. Bah oui. Donc vous pourrez retrouver le podcast quand Mathias aura terminé de monter sur.
Dans un an et demi. Ouais.
Non, on espère que non. Sur Spotify et toutes les bonnes plateformes de téléchargement. Mais donc voilà, on est passé à une brasserie bruxelloise parce qu'on va avoir pas mal d'événements bruxellois. Donc on s'est dit, il y a quelques bonnes brasseries bruxelloises. Enfin, il y a pas beaucoup de brasseries à Bruxelles. Je pense qu'on a 6. Corrigez-moi si je me trompe. Brasserie à Bruxelles. Et ici, donc, on a choisi une bière de la brasserie de la Seine. La brasserie de la Seine, c'est une brasserie qui est née au début des années 2000 avec la Zinebier, qui était une bière brassée spécialement pour la Zineke Parade, qui a eu lieu tous les deux ans et qui aura lieu cette année au mois de mai. Et puis après, ils se sont installés à Molenbeek et bientôt ils vont s'installer à Tour et Taxi. Ils font plein de bonnes bières, la Taras Bulba, la Jambe de Bois. C'est une brasserie qui revendique aussi un peu quand même l'amertume dans un monde où toutes les brasseries industrielles foutent du sucre dans leurs bières, un peu trop, parce que bien sûr, on met tous beaucoup de sucre dans les bières, mais là, à un point où c'est un peu trop, et donc ils revendiquent vraiment une certaine amertume. Donc c'est une bière fort sympathique. Enfin, une brasserie fort sympathique. Et la bière aussi, bien sûr.
On ne va pas cacher qu'on les aime particulièrement et qu'il y aura d'autres thématiques de podcasts et d'épisodes qui seront liés à la brasserie de la Seine.
La Jambe de Bois.
La Jambe de Bois, notamment. Alors, on va aller un peu plus vite sur le côté Zito. On peut toujours l'observer. Hein, donc, on est aussi encore devant une bière blonde. Je n'ai pas dit tout à l'heure...
Moi, je dirais même un peu plus que blond. Je dirais même couleur dorée.
Oui, on est doré. Alors, je n'ai pas dit, ici, on est plutôt sur un type de pale ale, alors que tout à l'heure, on était plutôt sur une triple, comme type de bière. On est un peu plus léger niveau pourcentage d'alcool, hein, on est dans les 6%, mais vous pourrez nous dire si vous trouvez que ça vaut les 6%. Alors, je vous invite à la sentir.
C'est comme le vin, ça, il faut tourner un peu, parce que sinon...
Ça reste assez léger aussi, hein, je pense.
Comme intensité, ouais.
Mais on est toujours dans les agrumes.
Allez, goûtons. Santé.
Allons-y, santé. Bon, un peu plus léger que la morale, mais c'est assez sympa. Il y a une légère amertume, on peut même dire moyenne, hein. Quand même, c'est assez intéressant. Moyen. Comme l'a dit Arne, hein, c'est quelque chose qui revendique, c'est d'amener autre chose comme type de bière que les bières qu'on avait l'habitude à l'époque quand ils sont arrivés.
Surtout que c'était au début des années 2000, donc on est clairement avant la mode des IPA.
Au niveau des arômes, on a quelque chose, donc je disais, proche des agrumes, vous pouvez repérer des odeurs d'orange, voire de citron. Et quand on la déguste, je vois que ça hoche de la tête quand on parle de citron, quand on la déguste, le citron est toujours très présent. Alors selon les personnes, on peut retrouver un petit peu d'abricot ou un petit peu encore de mandarine. Certains parlent même d'ananas. Ah bon, hein. Comme le vin, une fois qu'on vous donne des arômes et des saveurs, après on ne fait plus que goûter ça, donc bon, on n'a pas envie de trop jouer là-dessus non plus. Donc on vous parlait de l'arrivée. Hein, de Fernando Alvarez de Toledo, duc d'Albe. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va...
Il vient pas tout seul.
Ah non, il vient pas tout seul. Non. Il vient avec 10 000 hommes.
Enfin, oui, entre 10 000 et 15 000. Voilà. C'est pas des... Allez, enfin, hommes, enfin, on parle de soldats.
De soldats, oui, tout à fait. Non, c'est pas des, ouais. Des musiciens et des, non, des saltimbanques. Oui. Ouais.
Ça aurait été pas mal de rétablir l'ordre avec des saltimbocs. Voilà, à mon avis, ça aurait vachement mieux marché dans nos provinces. Mais voilà, voilà, comme je le disais, Philippe II ne prend que des mauvaises décisions.
Surtout que, bon, on l'avait mis en garde par rapport au coup de l'armée qui était encore en place, qu'il a tardé à renvoyer en Espagne. Et là, d'un coup, il remet 10 à 15 000 hommes dans nos régions et ça augmente de nouveau l'impôt. Le duc d'Albe va essayer d'augmenter l'impôt aussi. Ça n'a pas excessivement bien marché. Il va revenir hein, plusieurs fois sur ses décisions. Par contre, ce qui va très bien marcher pour lui, c'est son conseil des troubles pour juger justement les troubles faits. Ah, on a une main qui se lève.
Petite pause dans le live pour simplement vous informer que la captation audio du public ne s'est pas déroulée exactement comme on l'avait prévu. Donc je vais simplement vous répéter ici les questions que vous nous avez posées lors du live. La première consistait à savoir comment ces hommes d'armes étaient arrivés dans nos régions.
Ah, ils arrivent à pied. Au fait, ils arrivent de Franche-Comté. Enfin, parce que donc
encore la Franche-Comté.
Ouais, encore la Franche-Comté. Donc les Habsbourg, ils sont un peu partout. Hein. Ils gèrent, ils règnent sur plein d'endroits et ils font la guerre un peu partout. Et donc via je ne sais quel jeu de stratégie, de stratégo. En gros, ils sont passés Franche-Comté, ils sont passés vers nos régions. Mais oui, donc à pied en effet. Et donc.
Mais c'est intéressant comme question parce que c'est vrai que dans nos régions, il y a des ports qui sont quand même florissants. Hein. Et donc Philippe II, qui est aussi connu pour avoir fait l'invincible Armada, qui s'est un peu planté la gueule à un moment donné, mais en tout cas.
Oh, mais tu spoil aussi. Là.
Mince, pardon. Ouais,
non, c'est pas grave.
Non, mais bon, voilà. Non, mais donc, il aurait très bien pu utiliser les bateaux pour amener toutes ces troupes dans nos régions.
Enfin, on parle quand même de 10 000 hommes, enfin 10 000 soldats. C'est pas évident pour acheminer tout ça. Mais oui, donc ils sont venus via la Franche-Comté. C'est pas des troupes de merde. C'est des Cortés. C'est des gens assez aguerris.
Ils foutent la pétoche.
Et ils foutent clairement la pétoche. Et quand on voit en effet les nombres de caricatures et de crimes qu'on attribue au duc d'Albe, voilà, on comprend que ça n'a pas dû être une période très très rigolote.
Alors ce conseil des troupes qu'il va mettre en place, on l'a appelé aussi le conseil de sang. Donc vraiment, ça va véhiculer une image sanguinaire hein, de ce duc d'Albe qui va arriver dans nos régions, qui va juger des personnes par centaines. Et souvent, la mise à mort hein, est la conséquence de son jugement.
C'est ça. Donc le Conseil des troubles, en plus, il supplante le Conseil d'État dont on a parlé tantôt. Et bien sûr, ce Conseil des troubles, qui est-ce qui va juger ? Le comte d'Egmont, pour voir si vous suiviez. Bah oui, il va juger le comte d'Egmont et le comte de Horn pour trouble également, hein, pour rébellion. Mais
on parlait justement, le problème, c'est que Marguerite, elle va voir ça d'un mauvais œil. Hein, donc elle voit débarquer toutes ses troupes, elle voit arriver le duc d'Albe, alors qu'elle avait mis en garde Philippe II.
Elle n'a même pas été consultée.
Elle n'a pas été consultée, et du coup, elle va se retirer. Elle va revenir à un moment donné, et puis après, elle va encore se retirer.
Et donc Albe va clairement devenir le gouverneur de nos provinces.
Guillaume d'Orange, lui, va s'enfuir. Donc, il a vu le vent tourner, donc il repart dans ses propriétés, alors que la morale d'Egmont et Philippe de Montmorency, hein, donc le comte d'Orne, eux vont décider de rester, même s'ils restent parfois plutôt dans leurs propriétés. Mais ils ne sont pas très loin de Bruxelles. Et donc, à un moment donné, ils vont être jugés pour tout leur fait.
Surtout, ils ont été, parce qu'on n'exécute pas des nobles à l'époque, hein, c'est quand même la haute noblesse, on ne les exécute pas comme ça. Ce qu'on va surtout leur reprocher, donc c'est bien sûr un peu le côté un peu rébellion, mais comme on le disait avant, en fait, ils étaient quand même loyaux, ces gens-là. Et c'est pour ça qu'ils sont restés aussi. Ils disaient, oui, mais Philippe, il va revenir, il va comprendre, il va voir, et voilà. Mais donc voilà, ils sont restés dans nos régions, dans l'espoir, bah, voilà, que tout aille bien, que tout finisse bien. Mais ils vont être jugés pour crime de lèse-majesté, en fait. Ils vont être tués pour ça.
C'est un des plus grands crimes.
C'est un terrible crime. Et donc, leur crime, en fait, ça a été non pas vraiment de mal avoir géré la rébellion, d'avoir permis tout ça. C'est, en fait, c'est d'avoir écarté Granvelle. Hein, Granvelle, le quête dont on parlait tantôt, qui était donc le copain de Philippe II. En fait, en l'écartant, ben, il remettait en cause l'autorité du roi. Et c'est quelque chose qui ne se fait pas à l'époque. Hein, heureusement, les crimes de lèse-majesté ne sont pas punis aujourd'hui. À l'époque, ça, il en était tout autre. Et même s'il y a pas mal de nobles qui ont essayé d'intercéder en leur faveur, ben, il n'en fut rien. Et donc, par une belle journée de juin...
On va les amener sur la Grand Place de Bruxelles.
Voilà, on va d'abord les juger.
Ils sont d'abord jugés le 4 juin.
Le 4 juin, c'est ça, exactement. Voilà. Et puis après, ils vont être emprisonnés dans la maison du roi, donc Grand Place. Donc la prochaine fois que vous passez Grand Place, vous verrez la maison du roi. Et vous direz, ah, c'est là que Egmont et Orne ont passé leur dernière nuit. Ça ne devait pas être super chouette. Hein. Je le dis un peu de manière romantique, là, mais...
Oui. Et donc, bah, on va leur couper la tête, évidemment.
Oui. Voilà.
Et ça va être très marquant pour la population.
C'est très marquant, parce que, bien sûr, bon, on coupe la tête, mais après, on montre la tête hein, sur un pilori.
Ils sont empalés.
Ouais, ouais. Ils sont empalés, oui. Oui, non, c'est très sympa à l'époque. On savait s'y faire.
Voilà, mais ça va rester une nuit. Hein. Après, les têtes vont être rapatriées avec les corps et le lendemain, ils sont renvoyés dans les sépultures familiales, notamment Zottegem, hein, vu qu'on vous a parlé de la bière, pour la morale d'Egmont. Voilà. Et ce qui est assez important de comprendre, c'est quand même que la morale, c'était un catholique et qu'il a toujours défendu hein, le catholicisme. Il était marié à une protestante.
Et Orne, pareil.
Et Orne, pareil, il a même déclaré que lui, il se moquait complètement des questions religieuses, mais voilà, ça ne les a pas empêchés de finir la tête tranchée.
Exactement.
Finalement, à force de tenir tête à Philippe II, ils ont perdu la leur.
Voilà, exactement. Merci, Mathias. On s'est dit qu'on ferait un max. Ouais.
Merci.
Vous pouvez l'applaudir. On s'est dit qu'on ferait un max de jeux de mots pourris. Mais
finalement,
c'est...
on les garde pour nous voilà, quand même un petit peu.
C'est pas si évident que ça, et puis on n'avait pas envie d'avoir l'air trop con. Donc
c'est peut-être
voilà.
Loupé, mais voilà, tant pis.
Tant pis, c'est pas très grave. Alors, donc une fois qu'ils sont exécutés, nos deux amis, ben, c'est ce que l'historiographie néerlandaise a appelé le début de la guerre de 80 ans. En gros, c'est la séparation de nos provinces, hein, des Pays-Bas, en deux entités, les Pays-Bas, les Provinces-Unies au nord, et puis les Pays-Bas méridionaux, comme on appelle ça, enfin, en gros, la Belgique, quoi. Au sud, donc va s'en suivre toute une guerre qui va donc plus ou moins durer plus ou moins 80 ans. On va avoir Orange qui va revenir, il va envahir une partie de la Belgique. Albe, il va complètement perdre le contrôle de nos provinces à part le Luxembourg et Namur, qui étaient restés assez étrangement éloignés de tous les troubles. Puis après, voilà, il va foirer son invasion, il va revenir, il va voir le fils de Marguerite de Parme, parce que Albe, à un moment, il en a complètement marre. Je pense que c'était quand, en 1573, il en a marre. Il voit que tout foire, que tout fout le camp, et donc il se barre, il abandonne son poste de gouverneur. On va avoir donc d'autres personnes, donc le fils de Marguerite de Parme qui va venir, qui est Alexandre Farnèse.
Et là, ça va quand même changer la donne.
Et là, ça va changer la donne. Il va commencer à reprendre tout doucement nos provinces. Il va reprendre vraiment donc, tout le territoire de la Belgique. Si Philippe II, à nouveau, était moins con, ben, il aurait probablement pu récupérer même tout le reste et la Belgique et les Pays-Bas seraient encore unis. Mais ça, c'est de l'histoire fiction, donc on ne va pas trop aller là-dessus. Mais en gros, ce conflit va se terminer en 1648 par une paix qui va fixer une bonne fois pour toutes nos frontières. Et donc, d'un côté, on aura les Pays-Bas, et de l'autre côté, on aura les Pays-Bas septentrionaux, et de l'autre côté, les Pays-Bas méridionaux, donc la Belgique et les Pays-Bas actuels.
Alors, je sais qu'Arne a très envie de parler des Pays-Bas, mais je vais devoir le couper quand même.
Oui, merci.
Un petit peu. Mais donc, c'est pour ça
que j'ai un bracelet orange.
Voilà, c'est ça. moi aussi du coup. Ah oui. Mais c'est pour ça que nos régions sont restées vraiment catholiques alors que le nord est resté plutôt protestant. Donc on a vraiment une frontière religieuse qui va se mettre en place, même si on continuera à avoir des protestants tout de même dans nos régions. Alors tout cela, bah, ça se voit dans le monde des arts. On va beaucoup parler du comte d'Egmont. Alors le comte d'Orne, on va en parler un petit peu, mais il va passer au second plan. On a dans la littérature, bah, dans les essais de Montaigne, on va déjà mentionner ces événements. On a Goethe qui va écrire une pièce qui va s'appeler Egmont. Je pense que voilà, c'est assez, assez clair. Et ce qui va se passer, c'est que Beethoven va aussi réaliser une musique pour cette pièce de Goethe. Donc je vous invite à aller l'écouter sur Internet après le podcast. C'est assez sympathique, on n'a pas voulu la mettre pour ne pas plomber l'ambiance. Mais en tout cas, c'est assez romantique hein, comme mouvement. Donc c'est quelqu'un qui s'est dressé pour la liberté, alors qu'en fait, à la base, il se dressait juste pour leur liberté. Hein. Ce sont vraiment des nobles qui essayent de conserver leurs privilèges. Ce ne sont pas du tout des gens qui se dressent pour le peuple devant le grand méchant qui essaie de leur imposer toutes sortes de choses. Mais au XIXe siècle, ça va quand même commencer à changer.
Au XIXe siècle, bah, la Belgique, elle est toute jeune, hein, au XIXe siècle. Et donc, en gros, pareil, ils essayent de chercher des espèces de héros nationaux hein, pour dire oh, on est trop bien. C'est pour ça qu'on a une statue de l'espèce de croisé, là, comment il s'appelle encore ?
Godefroy de Bouillon.
Godefroy de Bouillon, merci. Ouais, vous voyez.
On est un podcast d'histoire. Hein.
Ouais, on est un podcast d'histoire. Mais c'est aussi pour dire à quel point j'adore les croisés. C'est une époque où on se cherche plein de héros nationaux, même s'ils ne le sont pas du tout, parce que Godefroy de Bouillon, par exemple, était français. Egmont et Orne, ben, au fait, c'est tant les Hollandais que les Belges, du coup, qui se disputent un peu l'héroïsme national. Mais en effet, donc voilà, c'est une époque où on se dit « Ouh, il a fait quelque chose de tellement bien pour la Belgique. Mettons-le, faisons un piédestal, faisons deux statues qui se trouvent donc maintenant... »
Au Petit Sablon, mais ces statues... Pardon ? Voilà, c'est au Petit Sablon, tout à fait. Et à la base, ça se trouvait carrément sur la Grand Place de Bruxelles, hein, devant la Maison du Roi, pile là où ils ont été exécutés. Donc c'est réalisé en 1859, et puis à un moment donné, on a l'envie de les déplacer vers le Petit Sablon. On a Galet, le peintre tournaisien, clin d'œil pour les tournaisiens, qui va réaliser de grandes peintures, et notamment les derniers hommages rendus au comte d'Egmont et de Orne. Je vous invite à aller les voir. Je pense qu'il y a une peinture aux Beaux-Arts à Bruxelles, et on en a aussi au Musée des Beaux-Arts de Tournai. Et alors, c'est quand même assez controversé comme figure, parce qu'évidemment, les catholiques les voient un petit peu comme des rebelles, alors que les anticléricaux les voient comme des mecs un peu tièdes, qui se sont légèrement révoltés. Alors, ce qui est important aussi, c'est qu'en 1958, on va avoir le jeu d'Egmont sur la Grand Place, donc on va rejouer la pièce de Goethe, qui va être quand même fameusement transformée. C'est très important, on a cette idée dans les placards depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc le but c'est de redonner une image des grands héros nationaux hein, de la Belgique au sortir de la guerre. Donc ils vont le garder 12 ans de côté, et puis pour l'Expo universelle, l'occasion est parfaite, surtout que la ville de Bruxelles a peur que tous les touristes aillent au Ezel pour voir l'exposition, et ils ont peur que la ville perde un peu de poids par rapport au pays hein, qui gérait plutôt l'Expo, et donc ils essayent de rameuter le touriste dans le centre de Bruxelles. Il faut croire que c'est des problématiques qui étaient déjà présentes à l'époque. Et donc, on va rejouer ce grand jeu d'Egmont, de la morale d'Egmont. Et donc, on a des centaines d'acteurs qui vont être présents sur la Grand Place de Bruxelles et qui vont rejouer encore une fois cette grande pièce. Éric Emmanuel Schmitt va le refaire aussi, mais là, j'ai moins d'informations sur le sujet, je vous l'avoue.
Bah, je pense qu'on a fait le tour hein, sur Egmont.
Voilà.
On oublie tout le temps Orne. Et d'accord, on va prendre, si on a le temps, autre question.
Une petite question. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'histoire, on lui fait dire un petit peu ce qu'on veut et qu'elle va être transformée hein, au fur et à mesure des années, voire des siècles, pour le besoin de tel ou tel parti, que ce soit politique ou au niveau religieux. Oui.
La question ici portait sur le palais d'Egmont que vous pouvez voir au Petit Sablon. On nous demandait s'il était contemporain de la morale d'Egmont, et il faut bien l'avouer, on s'est un petit peu trompé, parce qu'on situait le palais au XVIIIe siècle, mais en fait au XVIIIe siècle, c'est la période pendant laquelle le palais va subir d'importantes modifications, mais il date bien du XVIe siècle. On s'excuse donc pour notre erreur, mais bon, comme on dit, faut avouer, à moitié pardonner.
Il faudra checker encore plus les sources pour être vraiment sûr à 100% de ne pas nous prendre à dépourvu, mais oui. Alors oui. La morale de l'histoire, oui. Voilà. Merci pour celui-là. Voilà. On n'a pas osé le faire. On y avait pensé, mais on l'avait gardé de côté.
Voilà. Donc la morale, c'est buvez des bonnes bières et, voilà. Et écoutez notre podcast.
Écoutez notre podcast. La morale, c'est surtout qu'on vous remercie d'être venu aujourd'hui. Voilà, on est assez ému de tous vous voir ici. C'est bien pour nous de mettre aussi des visages sur les auditeurs qui nous écoutent. On est très content que vous soyez venu nous écouter.
Surtout merci au Brussels Podcast Festival de nous avoir accueillis.
Et de nous avoir fait confiance. J'en vois certains organisateurs là-bas. Un grand merci. C'était vraiment chouette d'être là en votre compagnie. Évidemment, on reste présent pour continuer à boire 2-3 verres au bar. On n'est clairement pas contre. En tout cas, on vous fait des bisous.
Et à bientôt sur Godéamus.
Et à bientôt sur Godéamus.